RCF. Bonsoir à tous en direct ce soir à 18h10. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Nous accueillons dans cette émission spéciale aujourd'hui Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, mais j'ajoute toujours président de la Conférence des évêques de France. Monseigneur, bonjour et merci.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Alexis, bonsoir à tous et à toutes.
Alors il est vrai qu'aujourd'hui nous avons appris une grande nouvelle, c'était vers midi. Le pape François a nommé aujourd'hui Monseigneur Étienne Véteux, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Reims. Alors c'est pour vous une bonne nouvelle, Monseigneur ?
Bah, c'est une bonne nouvelle pour moi, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour le diocèse tout entier. Ça fait 2 ans que Monseigneur Feuillet nous a quittés. Et que nous attendons un auxiliaire, donc quelqu'un qui puisse m'aider, nous aider à multiplier un petit peu notre action, qui puisse compenser un peu tout ce que, pour ma part, je n'arrive pas à faire à cause de mes 2 casquettes.
Alors justement, Monseigneur, en direct avec nous aujourd'hui, Monseigneur Étienne Véteux, en direct de Jérusalem. Monseigneur Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour, bonsoir, bonsoir à l'équipe, bonsoir aussi à Monseigneur Moulin-Beaufort.
Bonsoir Étienne, oui.
Alors, bien entendu, Monseigneur, on ne vous connaît pas encore vraiment, on a eu des communications, un CV, tout un itinéraire. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être aussi avec nous sur cette radio vous présenter un petit peu, c'est-à-dire à la fois votre parcours et vos ministères.
Tout à fait, je serais enchanté de le faire. Donc je suis un prêtre de la communauté du Chemin Neuf. Je suis de mère française, de père hongrois, et puis je suis né j'ai grandi aux États-Unis. Mon père était réfugié politique. Il a fui la Hongrie en 56, s'est réfugié en France, a trouvé un pays d'accueil et une jolie française. Et du coup, c'est vrai que je vois que cet héritage-là fait que j'ai eu la chance de vivre dans pas mal de pays différents et donc d'être très sensible à la diversité des cultures, à la richesse de cette diversité.
Vous êtes né aux États-Unis, Monseigneur.
Oui. Et donc, je suis né aux États-Unis. Nous parlions français à la maison. Je me suis toujours considéré comme un Français, mais j'ai aussi la nationalité américaine. Et j'ai beaucoup appris de ce grand désir de liberté qu'on a aux États-Unis, ce désir de garantir aussi la justice. Ça faisait partie de la construction du pays. Bon, c'est parfois un peu malmené, comme dans beaucoup de pays actuellement, mais ça fait partie de l'héritage que je retiens de ce beau pays.
Alors, votre parcours, on l'a vu en CV, l'école normale supérieure, vous êtes bardé de diplômes, agrégation de philosophie, docteur en théologie au Centre Sèvres. Bref, vous arrivez avec pas mal de diplômes sous le bras, Monseigneur.
C'est vrai que je suis un passionné de lecture. Depuis que je suis tout petit, je lisais, mais mes parents m'avaient interdit même de me lever avant 6h du matin pour lire, tellement j'aimais ça. J'ai obéissé, mais j'ai beaucoup lu. En même temps, je dois dire que quand le nonce m'a annoncé cette nouvelle, j'ai vraiment vécu une très grande joie, parce que si je suis devenu prêtre, c'était d'abord pour être pasteur, pour être au contact des personnes. Donc j'ai l'impression que je viens avec les deux. Une passion pour le travail intellectuel. Je suis sûr que l'Église et la culture, l'Église et le monde de l'art, de la réflexion, ont besoin de travailler main dans la main et peuvent s'enrichir. Et puis en même temps, je suis vraiment très heureux de pouvoir replonger dans l'accompagnement des personnes et de l'Église locale.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, votre première réaction, vous connaissez bien sûr tout ce qu'on vient de dire, mais à propos de cet itinéraire, parce qu'on a l'habitude d'accueillir dans des diocèses comme évêque auxiliaire des prêtres qui sont, j'allais dire, de Tulle, de Brive, de Brest, de Strasbourg. C'est un peu différent quand même.
Eh bien oui, ça sera intéressant à vivre. Pour ma part, je connaissais un petit peu le père Étienne Véteux. J'ai eu la chance de connaître un peu son père parce que je l'ai fréquenté dans le cadre de la revue Communio, qui est une revue de théologie, à laquelle participait monsieur Vetteux. Et puis, j'ai croisé le père Étienne à quelques reprises dans des rencontres plus ou moins théologiques. Voilà. Mais je suis très heureux pour ma part qu'il vienne avec toute sa capacité de réflexion. Parce que nous sommes dans des moments de grande transformation de l'humanité, on dit ça sur tous les tons, et que ces transformations de l'humanité méritent qu'on puisse y réfléchir. Voilà, et la formation théologique du Père Étienne nous permettra, je crois, de continuer notre projet de transformation pastorale en l'enracinant profondément dans les mystères de la foi. Et ça sera rassurant et encourageant pour tout le monde.
C'est ce que vous venez d'indiquer à l'instant dans une lettre que vous avez adressée au diocésain, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Sa solidité théologique nous aidera à fonder notre élan missionnaire et la recomposition de notre diocèse dans les réalités de la foi.
Voilà, alors je viens de dire ce que j'ai écrit, c'est plutôt bon signe.
Oui, ça prouve que vous êtes bien présent et que vous n'êtes pas hors sol. Justement, Monseigneur Vetteux, vous qui êtes un intellectuel, vous avez dans vos ministères souvent été enseignant en philosophie un peu partout et puis aussi en théologie à l'université pontificale grégorienne et récemment, enfin depuis 10 ans déjà, 8-6 ans déjà, directeur du centre Cardinal Béat. De quoi s'agit-il exactement?
J'ai beaucoup enseigné en fait ces dernières années, mais je pense que moi non plus, je ne suis pas hors sol, dans le sens où en fait l'enseignement c'est vraiment un accompagnement d'étudiants. Il y a toutes ces dimensions-là d'étudiants. Donc à la grégorienne, les étudiants sont de 120 pays du monde et ça fait un contact avec la diversité de l'Église du monde entier et du coup aussi un lieu où on peut recueillir des idées de partout. Et j'espère que à mon petit niveau, je réussirai à venir avec tout ce bagage-là à Reims. Le centre Cardinal Béat, c'est un centre d'études du judaïsme et de relations avec le judaïsme. Qui a été fondé en l'an 2001 en lien avec l'université hébraïque de Jérusalem, et un centre où les étudiants sont chrétiens, mais la moitié des enseignants sont juifs, et on entre réellement dans un débat avec le monde juif, et ça fait partie aussi de, non seulement de mes passions, mais je crois des convictions avec lesquelles j'arrive, c'est que surtout dans ces moments de turbulence, l'Église a besoin de retrouver ses racines pour être plus forte et pour grandir dans la nouveauté. En fait, on trouve du nouveau en puisant aussi dans ses racines. Le Dieu lui-même a choisi de nous greffer sur le peuple juif, comme le dit saint Paul. Et ça a été la chance ces dernières années à Rome pour moi.
Il faut dire que, Monseigneur,
vous voulez ajouter? Ce que je voulais ajouter, c'est que donc, en recevant un évêque auxiliaire à Reims, nous recevons un appui important à Reims et dans les Ardennes, mais c'est aussi un évêque pour toute l'Église en France et pour l'Église universelle. Et je me réjouis beaucoup de l'apport que Monseigneur Vetteux pourra donner aussi à la conférence épiscopale française et puis de manière plus générale au collège des évêques à l'échelle du monde. Dans la réflexion sur l'unité du peuple de Dieu, l'unité du dessein de Dieu depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a des enjeux très très importants pour l'avenir de notre mission et de la vie de l'humanité.
Sans entrer bien sûr dans un itinéraire trop personnel, Monseigneur Vetteux, mais votre père qui était aussi philosophe avait quitté la Hongrie, s'était converti au catholicisme il y a très très longtemps, au moment de la guerre de 40 pour les raisons qu'on imagine. Vous étiez vous-même bercé, j'allais dire, aussi dans la religion juive, enfin on peut dire pas vous, mais votre père en tout cas.
Oui, c'est vrai que c'est à la fois une grande chance, je trouve, d'avoir un père d'origine juive, d'avoir une grande partie de ma famille en fait qui est juive. Mon père, au moment de la Shoah, a été à l'âge de 8 ans sauvé par des religieuses catholiques, ce qui l'a beaucoup marqué. Et comme il était élevé dans une famille très peu pratiquante, ses premières expériences spirituelles ont été faites avec des catholiques. Et du coup, il a senti que c'était son lieu de relation avec Dieu. Mais il nous a toujours maintenus en lien avec le peuple juif. Et un de ses grands amis en France a été le cardinal Lustiger. Et je sais que Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et moi-même, nous partageons dans un certain sens cette filiation de du cardinal du sujet. On voit actuellement, notamment le travail au centre BA, j'ai vu à quel point lire la Bible avec des juifs était un éclairage, donnait un éclairage extraordinaire. Ça aussi, ça fait partie de ce avec quoi j'arrive.
Vous êtes prêtre de la communauté du Chemin Neuf et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, dans la lettre aux diocésains, appelait à être sur le terrain, à l'écoute des personnes, être davantage missionnaire. Ça, vous retrouvez ce désir en vous d'aller à la rencontre des Ardennais, des Marnais, des Rémois, j'allais dire sur le terrain de notre diocèse.
Oui, comme je disais au début, je crois que ma plus grande joie, c'est de pouvoir retrouver le travail pastoral et surtout la rencontre des personnes. Ça a été, dans mes premières années de vie presbytérale, j'étais beaucoup au service de retraite et de formation pour couples, et énormément au service de jeunes, que ce soit au niveau un peu de toute l'église avec les GMJ, mais aussi dans des week-ends, des aumôneries. Et je sens que la participation à la vie du Chemin Neuf m'a formé au contact avec des gens très très différents, très variés, des familles, des couples, nous sommes prêtres, célibataires, etc., tous ensemble, et du coup il y a une sorte de patte humaine. Alors en même temps, si je suis nommé évêque auxiliaire, c'est bien pour être au service de tout le diocèse. Je considère déjà que l'église de Reims, c'est l'église à laquelle j'appartiens, notre église, je peux dire. J'attends beaucoup aussi du travail avec l'archevêque qui m'indique comment procéder, quelles sont les priorités. Je suis d'abord là pour être à son service et puis au service du diocèse.
Monseigneur, un regard nouveau, vous le dites dans...
Nous avons la chance à Reims et dans le diocèse d'avoir depuis plusieurs années la présence de la communauté du Chemin Neuf à travers le foyer Saint-Sixte. Mmh. Qui est dans la maison Saint-Sixte depuis, je ne sais même plus depuis combien
quelques
de temps.
Quelques années, oui, plusieurs décennies.
Voilà. Et puis avec ce qui a été d'abord la paroisse Saint-André, puis l'espace missionnaire Reims-Est, donc ils sont bien présents. Il y a d'ailleurs cette année un renouvellement, puisque le père Stéphane Lang va partir, qui va être... c'est le père Thibaut Durisquet qui va prendre la responsabilité de l'espace missionnaire, et il va être aidé par Pierre de Curez, qui était déjà venu à Reims comme séminariste pour s'occuper du foyer. Donc il y a une habitude de la communauté du Chemin Neuf dans notre diocèse, et habitude de notre diocèse de travailler avec la communauté du Chemin Neuf, et ça sera pour Mgr Étienne Véteux un point d'appui, d'amitié, de fraternité, donc ça c'est bien, il ne sera pas tout seul, isolé dans un monde nouveau pour lui. Et en même temps, il nous pourra à la fois nous aider à recevoir ce que nous avons à recevoir de la communauté du Chemin Neuf, et en même temps lui-même apprendre comme cela à être non seulement un prêtre du Chemin Neuf, mais un évêque de toute l'Église catholique. Et c'est tous ces mouvements intérieurs qui nous enrichiront mutuellement.
Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, Monseigneur, quitte à le répéter, une solidité théologique qui aide à fonder l'élan missionnaire. C'est important, c'est la démarche que vous avez aussi entreprise déjà depuis 3 ou 4 ans.
Oui, donc nous avons vécu une transformation. Ça fait 4 ans que nous avons mis en place notre projet pastoral. Il s'agit aujourd'hui non seulement de faire un bilan, mais surtout de nous projeter dans l'avenir, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut mieux penser. Et puis il faut sans arrêt nourrir notre désir d'aller rencontrer les autres. Hein. À la base, notre projet missionnaire avait l'idée de la proximité. Non pas simplement attendre que les gens viennent à nous, mais aller au-devant des uns et des autres. Et voilà, je pense que le Père Étienne pourra nous y aider fortement.
Alors, sur le plan pratique, Monseigneur Étienne Véteux, vous êtes à Jérusalem, vous allez y rester encore plusieurs semaines.
Alors, oui, je suis à Jérusalem pour une période sabbatique. Ça tombe d'ailleurs très bien, comme j'étais frappé par le fait que depuis que je suis ici à Jérusalem, tous les jours je priais et je demandais au Seigneur de m'éclairer sur quelle serait la suite pour ma vie. Donc la réponse est venue assez clairement il y a quelques jours. Là je serai concrètement à Jérusalem jusqu'à la fin du mois de juillet. On a le chapitre général de la communauté du chemin neuf au mois d'août, pendant les trois premières semaines d'août, et comme je reste membre de la communauté, même si je ne vivrai plus avec elle, je participerai à ce chapitre. Et puis je compte arriver, il faudra encore que je voie plus concrètement avec Monseigneur de Moulin-Beaufort, mais fin août, début septembre. L'ordination épiscopale est prévue le 9 septembre, le samedi 9 septembre à 17h30.
Donc c'est une date, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'ores et déjà à retenir.
Ah bah que tout le monde peut noter.
Alors vous notez dans vos agendas, même si vous êtes en voiture. Hein. Samedi 9 septembre à 17h30.
Alors à Reims.
À Reims, bien sûr, à la cathédrale de Reims. Vous n'allez donc pas au JMJ de Lisbonne, Monseigneur Étienne Veteux ?
C'est une excellente question. J'aurais vraiment aimé y aller, mais avec ces derniers événements, je vais être obligé de faire mon déménagement à ce moment-là. Donc, avec regret, je n'irai pas au JMJ.
Je l'y représente. J'y serai, donc c'est bien.
Oui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort,
il suffit quand même.
Alors, et vous êtes aussi donc attaché beaucoup à Rome, parce que en fait, vous êtes à Jérusalem en ce moment, mais vous avez passé de nombreuses années à Rome, Monseigneur Étienne Veteux.
Oui, j'ai passé déjà 5 ans d'études, près, il y a une bonne vingtaine, 25 ans à Rome. J'avais aussi commencé à travailler au Vatican pendant 2 ans dans le cadre du jubilé de l'an 2000, où je m'occupais de l'accueil des jeunes, avec le cardinal Etchegaray et Monseigneur Boccardo. Et puis là, cette dernière étape, c'était 9 ans à Rome. Et du coup, je suis membre, par exemple, de la Commission théologique internationale, qui est une commission qui travaille avec le dicastère pour la doctrine de la foi sur les grandes questions qui se posent actuellement à l'Église. Comment aborder théologiquement ces grandes questions ?
On a beaucoup de plaisir à vous accueillir en direct. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, il nous reste 2 ou 3 minutes. On peut peut-être aborder votre manière de travailler. Vous allez être obligé de réorganiser un petit peu votre équipe, Monseigneur. Alors l'évêque auxiliaire a un rôle essentiel.
L'évêque auxiliaire va avoir un rôle essentiel, puisque maintenant qu'il existe, nous avions fait un peu le pari qu'il existerait, donc on a prévu notre organisation avec lui. Mais jusqu'à maintenant, c'était une case à remplir. Elle est remplie d'une certaine façon, donc c'est bien. D'autre part, comme peut-être les auditeurs le savent, nous, la maison diocésaine qui est installée, la maison Saint-Sixte, en a déménagé pour laisser la place à l'Institut catholique qui s'agrandit. Le projet, c'est d'installer les services diocésains dans l'aile ouest de l'archevêché, dans lequel il y a quelques travaux à faire. Le premier de ces travaux, c'était de préparer un appartement pour l'auxiliaire. Et donc, c'est chose faite. Aujourd'hui, je peux dire à Monseigneur Veteux que quand il arrivera, il aura un appartement tout prêt, tout neuf, avec des robinets branchés. Donc,
de ce côté-là,
c'est rassurant quand même, Monseigneur Veteux.
C'est vrai que ces derniers mois, j'étais un peu inquiet en me disant si jamais on a l'annonce là, je serais obligé de lui dire que je ne sais pas où le mettre. Mais pour le moment, maintenant, ça y est, ça c'est réglé. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Ils apprendront à travailler ensemble. Hein, l'évêque auxiliaire sera vicaire général. Et puis, il y aura aussi le père Thierry Bettler, qui est actuellement vicaire général, mais qui deviendra aussi curé-recteur de la cathédrale de la paroisse Notre-Dame-Saint-Jacques. Et puis, le père Jean-Pierre Laurent, qui, pour le moment, est le curé de la paroisse Notre-Dame-Saint-Jacques, qui va devenir responsable de l'équipe pastorale de l'espace missionnaire Montagne-Val-d'Or, mais qui sera aussi vicaire général. Donc, nous apprendrons à travailler à 3, avec les disponibilités variés des uns et des autres. Mais je pense que là, ça peut être un bon point d'appui pour le diocèse, pour que, disons, l'équipe épiscopale soit un peu plus présente à tous et à chacun dans le diocèse. C'est en tout cas mon espérance.
Monseigneur Étienne Veteux, là, vous vous sentez accueilli à la fois dans les vignes du département de la Marne et dans les Ardennes, avec une diversité de territoires que Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort vous aidera à découvrir très rapidement. On vous remercie d'avoir été en direct de Jérusalem. Le dernier mot sur cette interview, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, pour dire au revoir à quelqu'un que vous allez retrouver.
Nous étions aujourd'hui en journée avec une journée de sortie de fin d'année avec tous les collaborateurs, ben, beaucoup de collaborateurs du diocèse. Et donc, j'ai pu annoncer cela, cette nouvelle à midi, un peu avant midi, et tout le monde est très heureux et attend avec impatience de faire la connaissance de Mgr Vetteux. Donc, bonne fin de séjour à Jérusalem et à très bientôt ici.
Merci. Merci pour votre accueil.
Merci, Mgr Étienne Vetteux, et à bientôt sur RCF. Tout de suite, je vous propose de retrouver le journal régional avec Alexis Claudretz. Vous reviendrez peut-être, Alexis, d'ailleurs, sur ce que vient de dire Mgr Éric de Moulin-Beaufort, qui est, je crois, encore une ou deux minutes avec nous.
(18h31 sur RCF, les titres de ce lundi 26 juin, la 6e édition de la Magnifique Society s'est refermée hier soir, une année 2023 qui permet au Festival de Musique de se stabiliser. Retour sur ce week-end de 3 jours de festivités. Pour la 2e année consécutive, Épernay et Ettlingen, ville jumelle, participent ensemble au challenge Ville en Selle. Objectif, parcourir le plus de kilomètres possible à vélo pour chaque duo franco-allemand.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais avant de développer ces titres, on vous en parle depuis ce midi sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes. C'est un jour de joie pour le diocèse de Reims et des Ardennes puisque Mgr Étienne Vetteux a été nommé ce jour par le pape François, évêque auxiliaire de notre diocèse. Il nous partage sa devise épiscopale.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est une citation de Théronome 6, verset 5. Il y a peut-être deux idées derrière. La première, c'est le rapport au judaïsme et au peuple juif. C'est un extrait du schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et c'est la prière que tout juif prie plusieurs fois par jour, que Jésus, Marie, les disciples certainement priaient plusieurs fois par jour. Et puis l'autre dimension, bah, c'est l'amour. En fait, au cœur de toute notre vie chrétienne ou de toute notre vie, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Je pense que c'est à la fin la seule réalité qui comble et la seule question qui nous sera posée à la fin de notre vie, c'est « As-tu aimé ?»
Avec déjà un message à ceux vers qui il est envoyé.
J'ai hâte de vous voir, hâte surtout de rencontrer le plus de personnes individuelles possible. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas d'abord des institutions ou des projets, ce sont des rencontres avec des personnes, donc j'ai hâte de cela.
Un document signé KTO TV, l'ordination épiscopale de Mgr Étienne Vetteux aura lieu samedi 9 septembre en la cathédrale Notre-Dame de Reims. À noter que le maire de Reims, Arnaud Robinet, et la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, ont salué cette arrivée sur leurs réseaux sociaux personnels en souhaitant la bienvenue au nouvel évêque auxiliaire. Mgr Éric de Moulin-Beaufort, c'est vrai que c'est une nouvelle joyeuse, hein, on vient d'en parler à l'instant, tant on attendait un auxiliaire dans notre diocèse de Reims et des Ardennes depuis le départ de Mgr Feuillet.
Oui, voilà, 2 ans passés, donc c'est long. Pour ma part, j'ai ressenti fortement quand même cette année tout ce qui ne se faisait pas, tout ce que je ne faisais pas et qui ne se faisait pas non plus à cause de l'absence d'un évêque auxiliaire. Donc on peut dire qu'il était temps et je me réjouis de cet apport pour notre diocèse et je pense que beaucoup s'en réjouiront avec moi.
On aura l'occasion d'en reparler avec vous, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. On vous retrouvera notamment demain matin avec Jean-Pierre Benoît et Mgr Étienne Vetteux sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes à partir de 7h. Et évidemment, vendredi matin dans Parole d'évêque. Jean-Pierre.
Absolument. Demain matin, 7h, 8h et midi, on vous retrouvera, Monseigneur, avec Monseigneur Étienne Vetteux. Et puis vendredi, comme vous l'avez dit, très justement, Alexis.
18h34 à Reims, la 6e Magnifique Society Festival de Musique Actuelle s'est refermée hier soir après 3 jours de fête au Parc de Champagne. Gabriel Rigobert, vous étiez sur place pour RCF Reims-Ardennes. Bonsoir.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, cette 6e édition s'est déroulée ce week-end au Parc de Champagne. 3 scènes pour découvrir de nombreux artistes, la scène Central Park, Globetrotter et Royal Garden. Un événement organisé par la Cartonnerie, la salle de musique mythique de la ville de Reims. Mais une ambiance assez différente des années. On avait connu beaucoup plus de rap l'année dernière, par exemple. Cette année, c'était vraiment ouvert, il y avait tout. Alors, on a fait un petit voyage international avec le Nigérian Rema. Il y avait des stars francophones également, Angèle, Louise Attaque, Aya Nakamura, mais également des artistes rémois comme Léo Blomoff ou encore le rappeur Tekas. Alors, il y avait de la musique pendant 3 jours. au parc de Champagne, mais il y avait également de quoi se restaurer, des pizzas, de la nourriture végétarienne, il y en avait pour tous les goûts, des boissons, il y avait même des jus de fruits faits maison, faits sur place, pressés au parc de Champagne, dans un univers vraiment zen et vraiment vert. Il y avait également tout ce qui était autour de la prévention pour les oreilles, avec des bouchons d'oreilles, mais également de la prévention sur l'alcool, sur la drogue. Tout était fait pour passer un bon moment et un moment convivial en famille au parc de Champagne. Tous les ans, on retrouve également la petite society à l'intérieur de la Magnifique Society, avec cette année la possibilité de confectionner des couronnes de fleurs, faire des tatouages éphémères, décorer son sac ou encore jouer de la musique sur une mini-scène. Enfin voilà, la Magnifique Society, une sixième édition qui aura rassemblé plus de 20 000 spectateurs. Il y a eu un grand, grand soleil, peut-être un petit peu trop même dimanche, mais en tout cas, c'était un cadre super, un cadre vert en famille autour de bonne musique dans cette magnifique ville de Reims.
Oui, on va continuer, simplement je change complètement de sujet, Alexis, parce qu'on parlait de la chaleur, du monde, simplement d'un mot, parce que le micro marchait pas bien. Monseigneur, vous étiez sous le soleil, vous à Limoges, vous pouvez en dire un petit mot avec cette manifestation où il y avait quand même certainement beaucoup de monde?
Ah bah c'est très différent, oui, j'étais à Saint-Junien où il y avait une des ostensions de reliques qui ont lieu tous les 7 ans, pardon, et donc cette année est une année d'ostensions de reliques dans le Limousin. Une belle tradition locale, inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Ils en sont très, très fiers. Et c'est vraiment un moment très impressionnant, très, très émouvant, mais on en parlera une autre fois.
Oui, parce que j'ai l'impression que j'ai coupé l'élan de
la magnifique
Society.
Non, on a juste remercié Gabriel et puis on retrouve Gabriel à tout autre moment sur l'antenne de RCF en Sardaigne, sur les festivals cet été. Vous serez notamment au mois d'août du côté du Cabaret Vert, je crois.
Tout à fait, on se retrouvera à ce moment-là. Merci beaucoup Alexis, merci Jean-Pierre.
On a aussi une pensée pour les collégiens qui passent aujourd'hui les épreuves terminales du diplôme national du brevet. Elles étaient organisées aujourd'hui sur tout le territoire. Elles se poursuivent aussi demain, évidemment, au programme français, mathématiques, histoire, géographie, enseignement moral et civique, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie et un oral. Ils sont plus de 16 000 candidats dans l'Académie de Reims, dont un peu plus de 14 500 en filière générale. À toutes et à tous, bonne chance, même si une partie est déjà jouée, évidemment. Et puis, il y a aussi le contrôle continu qui compte pour 50% de la note. Depuis hier, la ville d'Épernay invite la population à effectuer un maximum de trajets à vélo. Ce challenge, intitulé « Ville en Celle, initiative de l'Alliance pour le climat, se tient dans la capitale du Champagne pour la deuxième fois. Objectif, parcourir le plus de kilomètres possible à vélo pour chaque duo franco-allemand, comme nous l'explique Jonathan Rodriguez, adjoint à la mairie d'Épernay, en charge de la transition écologique.
C'est une compétition entre différentes collectivités pour promouvoir la pratique du vélo sur nos communes, sur nos territoires. Ce sont des villes qui sont membres du partenariat Tandem, des villes franco-allemandes engagées dans la transition énergétique. Donc nous, c'est Épernay avec notre ville jumelle Ettlingen. Donc le but, c'est de parcourir le plus de kilomètres, c'est que le tandem des deux villes fasse le plus de kilomètres possible. On compte beaucoup sur nos collègues allemands parce qu'ils ont fait un beau score la fois dernière. Alors on va essayer progressivement de rattraper ce tard. La culture vélo est quand même plus développée en Allemagne que chez nous. Il faut relever ce challenge de réussir ce concours des villes jumelles.
Le défi Ville en Celle est proposé jusqu'au 15 juillet et Épernay. De plus, un autre événement aura lieu le 12 juillet dans la ville sparnassienne. Jonathan Rodriguez.
Sur la place Fadane Gourmand à Bernon, il y aura un parcours qui sera créé, qui sera proposé, un circuit, et chacun pourra venir faire le nombre de tours qu'on veut. On peut faire de 9h à 17h le parcours pour augmenter le nombre de kilomètres. Si on est très sportif, on peut le faire. Et puis là, il y aura des petites choses qui seront données, des gourdes, des casques, des choses comme ça pour rendre le parcours un peu plus attractif.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. En 2022, 23 cyclistes sparnassiens avaient parcouru 3139 kilomètres, évitant la production de 483 kg de CO2 si les trajets avaient été faits en voiture. À Ettlingen, ils étaient 787 pour 184 736 km, soit une économie de 28 449 kg de CO2. On voit que du côté des Marnais, on peut encore faire un effort. Pour plus d'infos, on peut s'inscrire. Rendez-vous sur le site ville-en-celle.org. En sport, le club sportif Sonnant-Ardennes cherche toujours à boucler son budget pour la saison à venir 2023-2024, avant son passage en appel devant la DNC. CG, le gendarme financier de football, le 4 juillet prochain, dans ce contexte compliqué. Après Ardennes Métropole, qui avait accordé une subvention exceptionnelle de 100 000 euros au début du mois, le département des Ardennes a aujourd'hui annoncé donner à son tour une subvention exceptionnelle de 50 000 euros. Pour rappel, le président du club soudanais, Marc Dubois, estime qu'il manque encore 850 000 euros. Des contacts avec des investisseurs seraient en cours. Affaire à suivre. Coup d'œil sur la météo avec notre stagiaire à la rédaction, Élise Coin, pour sa dernière à l'antenne ce lundi soir. Élise, c'est votre dernière météo. Quelles sont les tendances pour ce mardi en Champagne-Ardenne? On espère de bonnes nouvelles.
Pour demain, mardi 27 juin, nous retrouverons un petit peu de fraîcheur avec un ciel partiellement couvert. Dans la matinée, nous retrouverons des éclaircies sur tout le Grand Est, avec des températures de 16 degrés pour le département des Ardennes et la commune de Vitry-le-Croisé, 17 degrés pour le département de la Marne et la commune de Troyes, et 18 degrés pour les communes de Saint-Dizier et Nogent-sur-Seine. Pour l'après-midi, le ciel restera couvert avec des minimales de 22 degrés pour les communes de Charleville-Mézières et Vitry-le-Croisé, 23 degrés pour les communes de Rethel, Épernay, Châlons-Champagne et Troyes, et des maximales de 24 degrés pour les communes de Vitry-le-François, Saint-Dizier et Nogent-sur-Seine. Dans la soirée, les nuages partiront et laisseront place à un beau ciel bleu, avec des températures aux alentours des 20 et 21 degrés, et demain nous fêterons les Fernands.
En avance, une bonne fête à tous les Fernands. Merci Élise, demain vous ne serez pas avec nous, puisque l'on sera en direct depuis Rethel pour une émission spéciale avec nos amis du Rethelois et du Vousinois, magazine régional qui sera diffusé sur RCF France Ardenne, sur RCF Cœur de Champagne, bien évidemment, comme tous les soirs. Alors, avant de refermer ce journal, je voulais vous dire, Élise, un grand merci pour votre implication, ça fait 7 semaines que vous partagez tous les soirs la météo notamment, mais aussi d'autres actualités à nos auditeurs. Vous étiez en trio avec les drôles de dames, Suzanne, Testim, qui sont partis un peu plus tôt que vous les dernières semaines. Vous avez partagé la joie à l'antenne, le soleil, parfois aussi la pluie, mais ça ce n'est pas de votre fait malheureusement. En tout cas, un grand merci, puis une bonne continuation pour la suite, Élise.
Bah, merci beaucoup.
Parce qu'en septembre, quelles études?
Je continue mon BTS communication, je passe en deuxième année.
Oh, mais c'est bien.
Et voilà.
Eh bien, bravo.
Bonne continuation, Élise. Ainsi se referme ce journal ce lundi 26 juin. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et à 18h42, on regarde sur le monde avec Claude Ruiz. Claude Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Mohamed Ben Salman à Paris. Pourquoi? C'est la question que l'on se pose dans cette chronique avec vous aujourd'hui. Il vient de passer une semaine complète. Des vacances ou des objectifs géopolitiques pour Ben Salman?
Oh, sans doute les deux, je pense, hein, puisque vous avez posé la question. Mais oui, cette semaine, en gros, du 14 au 23 juin, un voyage diplomatique très élaboré, avec bien sûr un certain nombre d'objectifs, comme vous l'avez suggéré. D'abord, il y a eu, je crois, un très grand nombre de signatures de contrats de différentes natures sur le plan économique. Donc, il y a toujours ce volet économique qui est toujours présent, en particulier dans des domaines comme l'énergie, comme l'eau, comme les armements aussi, puisque l'Arabie Saoudite est un très gros acheteur, comme d'autres États du Moyen-Orient, donc d'armement. Et puis, par derrière, a été mis en avant par la plupart des analystes, vous le savez, la volonté de l'Arabie Saoudite d'être candidate à l'exposition universelle de 2030. Et donc là, on n'a pas beaucoup parlé, mais la France joue quand même un rôle important dans les choix des pays qui peuvent présenter ces 6 mois, puisqu'une exposition universelle, c'est minimum 6 mois. Hein, en dessous, vous n'avez pas le titre, ni les aides, ni la notoriété internationale. Donc il y a, de la part de l'Arabie Saoudite, la recherche de points d'appui diplomatique, mais vous le voyez, pas sur le plan militaire ou autre, mais recherche de la voix de la France, plus les contrats économiques.
La voix de la France qui compte à plus d'un titre, Claude Ruiz, puisque la France a été, on va le dire, plutôt favorable à l'installation de ce prince Mohamed Ben Salman, dit modernisateur.
Oui, sur le plan diplomatique, quand on regarde un petit peu la diplomatie française et tous les analystes qui en parlent, Mohamed Ben Salman a été d'abord considéré aussi comme un homme d'affaires, beaucoup d'entre gens sur le plan de ce chantier. Il a été ministre de l'énergie. Or, vous voyez, ça a été une source financière. C'est aussi une source de transformation. La preuve, on a même parlé il y a peu de temps de vélo, là, donc, hein, pour essayer d'économiser. Donc, l'énergie, c'est quelque chose de très important. Mais, sur le plan politique, il n'était pas vu comme quelqu'un qui allait arriver sur le devant de la scène. Il a été un peu parachuté, peut-être par ses compétences techniques, hein, qui l'ont fait mettre en avant. Et il a été mis en avant aussi, peut-être, pour essayer de changer l'image on va dire, d'une théocratie un peu autoritaire. L'Arabie Saoudite, c'est quand même ça. C'est un des pivots de cet ensemble moyen-oriental. Vous savez qu'il y en a en gros trois qui pèsent d'un poids énorme. L'Iran d'un côté, la Turquie de l'autre et l'Arabie Saoudite. C'est les trois pivots. Les autres sont, quelle que soit leur population, sont des pays relativement restreints en termes d'influence. Il est très ambitieux, assez autoritaire, mais une image de modernisation, puisque vous l'avez suggéré. Il a eu des contacts très tôt avec les organisations non gouvernementales. Il a essayé de libérer un peu les mœurs, en particulier le rôle et la possibilité pour la population féminine de gagner, en fin de compte, un petit peu d'équilibre dans les rapports familiaux entre l'homme et la femme. C'est un petit peu cet aspect-là qui est mis en avant. Et en plus, c'est d'autant plus souhaitable que quand on regarde bien la population saoudienne, c'est en gros 60% de moins de 30 ans. Donc on se retrouve avec une population qui fait pression, hein. Et dans ce cadre-là, bien entendu, il y avait comment maintenir à la fois les structures traditionnelles, loi islamique, mais dans lequel il y a un rapport au politique. Et là, en fin de compte, je pense que Ben Salman, c'est le politique qui s'impose un peu, ou du moins qui régularise le religieux, du moins dans ses structures traditionnelles.
Alors Claude Ruiz, si l'on fait une photographie avec vous, qu'on essaye de décrypter tout cela, comment comprendre cette réussite ?
Ben, je pense que il y a d'abord l'effort de l'Arabie Saoudite depuis très longtemps quand même. Hein. On ne va pas revenir aux rencontres entre les Saoudiens et les Américains sur un navire américain en Méditerranée en 1945. Mais donc il y a un soft power important qui est lié, bien entendu, aux modalités, aux capacités financières de l'Arabie Saoudite, et ça s'étend au niveau international. On pourrait prendre des exemples ici. Je ne vais pas le soulever parce que je n'ai pas le temps, mais on pourrait revoir en Ouzbékistan, aussi bien qu'au Kosovo, qu'en Bosnie, si vous allez dans ces pays-là, vous verrez à la fois du bâti, des influences, des structures qui sont très présentes et qui sont financées directement et ouvertement par l'Arabie saoudite. Donc, on a bien ce cadre-là. Il y a bien entendu des relais de soft power. Bon, même en France, on pourrait suggérer, l'Institut du monde arabe et son rôle, en fin de compte, de contact et un peu d'intermédiaire. On pourrait multiplier ces aspects-là. Et puis, une volonté de l'Arabie saoudite de jouer un grand rôle dans la consécration, on va dire, du monde arabe. Et Mohamed Ben Salman a mis en avant un petit peu ce nationalisme arabe. Il a ressorti ce nationalisme arabe et il l'a traduit par une certaine vitalité culturelle. Alors, est-ce que c'est caché, on pourrait dire avec le mot arabe, taqiya, est-ce que c'est caché ou est-ce que c'est ouvert? On a quand même cet aspect avec une monarchie, un petit peu absolue, qui essaye de gommer un certain nombre des aspects les plus durs.
Et concernant les droits humains, y a-t-il des limites à cette ouverture ?
Alors, il y a des limites. Il y a eu à la fois des avancées, on l'a dit, sur le plan juridique. Ça nous amènerait bien loin pour voir toutes ces évolutions, tous ces droits. Mais, bien entendu, par derrière, il y a un récit nationaliste saoudien très fort. Mohamed Ben Salman l'a relancé. Bien entendu, il y a eu des faiblesses, et dans ces faiblesses, vous le savez, ça a été le meurtre d'un opposant Khashoggi en Turquie qui a fait un petit peu, qui a un peu fragilisé l'Arabie saoudite. Mais on s'aperçoit que ce nationalisme arabe, il a été relancé aussi, vous le savez, par la présence, je vous rappelle quand même, depuis 2002, donc la guerre au Yémen est présente. Et on est bien là avec une présence forte, puisque le nombre de victimes qui est évalué actuellement, je vous rappelle, au Yémen, avec ses 150 000 à 200 000 morts. Donc, à la limite, c'est beaucoup plus important que la guerre en Ukraine, au nombre de victimes, quand on regarde un petit peu les éléments. Donc ça, c'est quelque chose qui a structuré un petit peu ce monde saoudien depuis quelques années.
Avec cette question, pour conclure, Claude Ruiz, Mohamed Ben Salman est-il toujours fréquentable ?
Bah, il est fréquenté déjà, je ne sais pas s'il est fréquentable, mais il est fréquenté. Je crois que bon, c'est tout le problème des valeurs internationales, bafouées ou pas, hein, selon que vous serez riche. Bon, je n'irai pas plus loin dans ce cadre-là. Je pense que la diplomatie se fait toujours en cachant un petit peu les actions les plus importantes. Il y a peut-être parfois dans cette diplomatie française pas un manque de courage, mais du moins on n'affirme pas un certain nombre de valeurs qu'on devrait affirmer sur tout, dans tous les cadres. Et je crois que la réflexion est toujours la même. Je vous rappelle quand même que très bientôt, le 14 juillet, c'est quand même le Premier ministre indien qui vient et qui lui aussi a des à la fois quelques zones d'ombre par rapport, en fin de compte, aux relations internationales.
Merci Claude Ruiz de nous avoir permis de regarder sur le monde et à très bientôt.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
On prend la direction de Vitry-le-François à 18h51 dans le magazine régional à l'occasion du 125e anniversaire de la consécration de la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. L'association des Amis de la Collégiale et la paroisse Saint-Charles-de-Foucault proposent une journée festive ce dimanche. Pour nous en parler, Gérald Gaillet et Hervé Castagna, à la fois président et trésorier des Amis de la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François, au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten.
Gérald Gaillet, bonjour.
Bonjour Christopher.
Et accompagné également du trésorier de l'association Hervé Castagna, bonjour.
Bonjour à tous.
Un anniversaire exceptionnel qui sera accompagné également, Gérald, d'un autre anniversaire, c'est les 20 ans de l'association des Amis de la Collégiale.
Eh bien oui, en fait, les 20 ans de l'association, c'est le 24 juin. Mais les 20 ans ne seront pas fêtés le 24 juin, puisque pour des raisons ecclésiastiques, on va dire, il fallait grouper avec les 125 ans. Donc l'anniversaire aura lieu le 2 juillet pour fêter les deux anniversaires.
Deux anniversaires, dont l'anniversaire, les 20 ans des Amis de la Collégiale. On peut rappeler quand même brièvement, Gérald, même si on a eu l'occasion d'évoquer l'association il y a plusieurs mois sur les ondes de RCF, rappeler un petit peu cette grande, on peut le dire, même si c'est pas 125 ans, c'est quand même 20 ans, une belle histoire de l'association des Amis de la Collégiale.
Alors une belle histoire puisque dès sa création, ça a été l'entretien et les rénovations, les restaurations des chapelles. Donc il y a eu tout un déroulement qui, une chapelle, ça met 5 ans avant d'être mise en lumière, hein, puisque on partait de rien pour arriver à une remise en lumière, à un blanchissement des chapelles. Ça viendra quand la ville, la DRAC, la ville, tout le monde sera d'accord, ça repartira. Bon, aujourd'hui, tout ce qui a été fait ici a été fait par l'association des Amis de la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François.
Alors l'association, ce n'est pas que Gérald, le président, et Hervé, le trésorier, c'est une équipe derrière. Vous êtes beaucoup de membres à être mobilisés autour de cette association.
Alors derrière nous, il y a d'abord un conseil d'administration qui est composé de 8 personnes. Il y a des équipes qui font le ménage. Il y a une équipe qui s'appelle Saint-Joseph qui est là pour tous les travaux. Il y a, voilà, il y a, et puis ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a 135 adhérents. Et 135 adhérents qui apportent aussi leur cotisation, mais quand on les sollicite, ils apportent aussi leur main à ce qu'on leur demande.
Alors, on vient de citer, Gérald, il y a quelques instants, les différentes missions, les missions principales de l'association, à savoir la restauration. On dit il y a quelques instants le ménage qui a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois au sein de cette collégiale Notre-Dame de l'Assomption. Alors justement, Hervé Castagna, parmi les différentes restaurations, travaux pilotés, préparés par l'association, quels sont les derniers travaux réalisés ?
Alors nous avons réalisé une vidéo entre l'orgue de tribune et le chœur, pour une meilleure communication entre l'organiste et le chœur. Nous avons aussi acheté du matériel pour faire le ménage, comme vous le disiez tout à l'heure, notamment 4 aspirateurs avec des batteries de rechange qui permettent le soulagement des personnes intervenantes. Dernièrement, un nouveau petit venu dans la collégiale, un meuble massif qui a été réalisé par un artisan local et qui va comprendre toute la communication, parce que toute la publicité, entre guillemets, est dispersée au sein de la collégiale, et nous voulions rassembler toute cette communication, diverse et variée, au sein même d'un même point. Comme ça, les gens rentrent par le sas Royer-Collard et s'aperçoivent de la documentation, etc. Toutes les informations seront centralisées. Nous avons également ressuscité le site Internet. On parle de résurrection parce que bon, nous sommes entre chrétiens. Et c'est vrai que le site n'avait pas mis... À l'époque, à sa conception, c'était, nos prédécesseurs étaient très avant-gardistes. Et le site était devenu en sommeil, voilà. Donc nous avons repris avec Gérald les choses en main et nous avons trouvé une société de communication qui est basée à Reims, qui est très très professionnelle et qui nous a reconstruit le site totalement.
Alors quelle est l'adresse de ce site internet ? Collégial-vitry.fr, c'est facile. Alors revenons sur le sujet principal désormais, Gérald, président de l'association des Amis de la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. On parlait au sommaire de cette émission les 20 ans de l'association, mais il y a aussi les 125 ans de la consécration de la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. Vous avez prévu d'organiser, alors non pas seul, avec la paroisse Saint-Charles-de-Foucault, plusieurs rendez-vous, plusieurs animations dans les prochaines semaines, et ça commencera dès le 2 juillet.
Alors ça commence dès le 2 juillet, alors par une messe d'action de grâce pour les 20 ans et pour les 125 ans, messe qui sera animée, on va le dire, par le conseil d'administration de l'association avec la paroisse. À la suite de cette messe, il y aura l'inauguration, le vernissage de l'exposition qui va durer tout l'été. 28 panneaux qui vont rappeler ce qui se passe dans les chapelles. Qu'est-ce qui est monument historique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin voilà, on va raconter au travers de ces panneaux l'histoire de cette belle collégiale. Ensuite, l'après-midi, il y aura un concours de dessin avec la paroisse. Il y aura un concours qui s'appellera « Dessine-moi la collégiale ». Et puis le père Marc a souhaité revenir sur des éléments, mais qui sont aussi valables pour les parents, les grands-parents. Vous allez voir, il y a un petit questionnaire qu'il faudra remplir. Vous aurez toutes les réponses dans la collégiale, bien sûr. Mais c'est pour, on va dire, se souvenir. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur? Qu'est-ce que c'est qu'un transept? Des choses simples, mais qu'on ne se souvient plus. Voilà. Le but, c'est de dire aux enfants, ben ça s'appelle comme ça. Et puis pour les anciens, c'est pour se dire, ah oui, ça s'appelait comme ça. Voilà. Tout simplement. Et alors, à la suite de ça, à 15h, à partir de 15h, eh bien, il y aura des visites commentées avec Hervé ou avec moi, en fonction du nombre de visiteurs. Et puis à 17h30, il y aura l'inauguration d'une plaque à la mémoire des anciens curés de Vitry depuis 1890 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça représente une petite dizaine de curés qui sont venus exercer leur ministère à Vitry. Et puis ça finira par la messe des vêpres. Vraiment, on aura démarré par la messe, on finira par les vêpres.
Donc ça, c'est vraiment la grande journée le 2 juillet en termes d'inauguration, de célébration, d'animation. Après, on se retrouvera de temps en temps durant l'été et durant septembre et octobre avec d'autres rendez-vous à la clé.
Alors déjà, tous les dimanches, il y aura une visite commentée de la collégiale à 15h. Oui. On reviendra le 2 août, donc la journée anniversaire. Le 2 août, eh bien, la poste sera présente avec nous, avec un cachet spécial, avec un timbre à date spécial, avec un timbre poste personnalisé, dessiné par Roland Irola, et puis il a également dessiné une carte postale de la collégiale, mais vue de la place Royer-Collard. Donc 10h midi, 14h, 17h.
Et puis le 15 août, la fête de l'Assomption.
Voilà, donc la messe aura lieu comme traditionnellement à 11h, et puis l'après-midi à 15h, c'est pas un dimanche, mais à 15h. C'est l'Assomption, donc on sera également là pour une visite commentée.
Merci beaucoup, messieurs Gérald Gaillet, Hervé Castagna, président, trésorier de l'association Les Amis de la Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. On vous souhaite un bel anniversaire, double anniversaire, les 125 ans de la consécration, mais aussi les 20 ans de l'association. Très bel anniversaire et à très bientôt.
Merci Christopher.
Merci et à très bientôt.
Un très très bon anniversaire. Merci Gérald Gaillet, merci Hervé Castagna, merci Christopher. On vous rappelle la principale information de ce jour en local. Monseigneur Étienne Véteux, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, est nommé par le pape François évêque de l'archidiocèse de Reims et des Ardennes. L'ordination épiscopale aura lieu le samedi 9 septembre à 17h30 en la cathédrale Notre-Dame de Reims. On se retrouve demain à 18h10 pour une émission spéciale depuis Rethel avec nos amis du Vousinois et du Rethelois. Merci Élise, c'était votre dernier jour aujourd'hui. À très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Et merci Gabriel de nous avoir accompagnés. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité. À demain à 18h10.